divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la Grande Loge de France. Une émission présentée et préparée par Perry Willet. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous écouter fidèlement chaque dimanche. Aujourd'hui, je reçois Pierre-Marie Adam, le grand maître de la Grande Loge de France. Bonjour Pierre-Marie.
Bonjour Perry, bonjour à tous.
Alors, cette émission est liée au fait que vous avez créé un document, vous avez voulu un document qui s'appelle l'appel de la Grande Loge de France. Alors, un appel de la Grande Loge de France est un événement assez rare. Je crois que la Grande Loge de France communique peu sur les événements qui nous entourent. Donc, ma première question, c'est qu'est-ce qui a motivé cet appel et pourquoi maintenant? Et puis, on verra aussi peut-être dans quel but.
Qu'est-ce qui a motivé cet appel, tout d'abord? Eh bien, c'est l'assassinat d'un enseignant pour le motif qu'il avait voulu enseigner et sensibiliser ses élèves à la liberté d'expression, qui constitue l'une des grandes libertés de notre République. Et la liberté d'expression, qui était rattachée à une religion, la liberté de croyance, s'agissant de ces deux fondements de notre République, ce sont aussi deux de nos fondamentaux à la Grande Loge de France, ceux sur lesquels nous nous sommes construits. Alors, j'ai jugé que nous pouvions et même que nous devions faire connaître notre sentiment, notre place dans la société, nos valeurs, avec comme objectif de montrer que sur ces sujets, nous sommes des citoyens autant que des frères et que nous voulons nous exprimer et exprimer ce à quoi nous sommes attachés pour défendre les valeurs essentielles pour le vivre ensemble. Voilà la raison et voilà le motif.
Alors, cet appel est un document de 32 pages, c'est pas rien, avec des contributions de 9 frères, donc ce document sera public, on en parlera tout à l'heure, des contributions d'anciens grands maîtres, d'anciens grands officiers ou de conseillers fédéraux de la Grande Loge de France. Alors, il décline tout un tas de sujets que nous allons aborder dans cette courte émission, mais je voudrais rappeler la page de couverture que vous avez choisie, c'est une Marianne noire.
Oui.
Et alors, ça, oui, vous faites bien en rire aujourd'hui, mais cela, il faut bien dire à nos auditeurs que ça a valu des menaces très graves sur les réseaux sociaux, à vous personnellement, évidemment des menaces sous couvert d'anonymat. Mais comment réagir? Comment ce sont des attaques permanentes, honteuses contre la franc-maçonnerie? Quand est-ce qu'elles s'arrêteront? Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous?
Alors d'abord, une Marianne noire. C'est une Marianne en bronze, en fait. Notre Marianne de la Grande Loge de France, comme dans d'autres obédiences et même dans certains cas dans la République. Et comme chacun le sait ou devrait le savoir, à moins d'être ignare, le bronze, qui est un alliage de cuivre et d'étain, à différentes proportions, donne des sculptures bronzées. Bronzées, telles qu'on le dit pour nous quand nous sortons des vacances. Et si vous avez quelques connaissances, Louis XIV, Jeanne d'Arc, sont des statues bronzées aussi, si on veut. Rarement, on a des sculptures en bronze qui sont blanches. Il faut du plâtre ou du marbre. Alors, ça, c'est une première réponse. Ma deuxième réponse, ce serait plutôt provocateur. Et encore, si c'était le cas, qu'est-ce qu'il y aurait à trouver à redire? Il y a aujourd'hui des citoyens français dont l'appartenance à la France est plus récente que celle de certains territoires éloignés. Par exemple, Nice et la Savoie ne sont français que depuis 1860. Le Hainaut, que je connais bien, depuis 1678. Mais face à cela, la Martinique et la Guadeloupe, c'était 1635. La Guyane, c'était 1637. L'île de la Réunion, 1642. Alors, qu'y a-t-il à redire à ce qu'une Marianne pourrait être noire? Deuxièmement, maintenant, puisque vous parlez des menaces. Bien sûr, des menaces. D'abord, comme vous l'entendez, je vous parle, je suis donc toujours là. Et même si ce genre d'attaque est intolérable, c'est surtout la preuve que l'anonymat sur les réseaux protège les lâches parce qu'il leur permet toutes sortes de dérives, qu'il leur laisse exhaler leur haine, qu'il leur donne un sentiment d'impunité, même si derrière ça, il n'y a pas de concrétisation. Encore que, après Samuel Paty, il y a bien eu les attentats de Nice.
Méfions-nous.
Le problème avec les réseaux sociaux, c'est que la haine peut s'étaler sans filtre, parce qu'il n'existe, de surcroît, aucune surveillance. À cet égard, je regrette, Et on peut regretter que la loi Avia, qui prévoyait des sanctions, ait été retoquée par le Conseil constitutionnel, pour de bonnes raisons sans doute. Mais ces propos doivent être régulés. Et d'ailleurs, sur les médias traditionnels, ils le sont, et ils sont parfois condamnés. Alors comment se fait-il que les incitations à la haine, au meurtre ou le racisme ne le sont pas parce que ce sont des réseaux sociaux? En fait, grâce à l'anonymat, il y a peu de chances qu'on retrouve l'auteur.
Oui, mais
et quant à la Grande Loge de France, dans cette affaire, elle a peu de moyens d'y mettre fin, sauf à porter plainte, à le signaler, à bloquer le compte, ce qu'elle a fait. Et les États n'y arrivent pas, je suis pas sûr que la Grande Loge puisse y parvenir. La seule solution, de fait, c'est se déconnecter. Mais du coup, plus de réseaux sociaux.
Oui, alors en fait, quand en ce moment, on voit que tout un tas de chercheurs et scientifiques sont en train de trouver un vaccin contre la COVID,
mais oui,
il est peu probable qu'un jour, on trouve un vaccin contre la bêtise. Ça, c'est clair.
J'en tirais un mot juste tout à l'heure.
Alors, poursuivons un peu dans l'analyse de cet appel de la Grande Loge de France. Vous avez donné comme sous-titre « Un homme meilleur pour un monde meilleur ». Alors, est-ce que c'est pas un peu une utopie lorsque l'on voit le monde dans lequel nous vivons en ce moment, et ce que l'on vient d'évoquer juste avant ?
Oui, alors Victor Hugo a écrit « Les utopies d'aujourd'hui sont la réalité de demain ». Tout est dit dans cette phrase. Et quant au rêve, on peut quand même se souvenir de Martin Luther King et de son discours sur « J'ai fait un rêve ». J'ai fait un rêve. C'est vrai que rien de grand ne se fait sans rêve. Et il nous appartient à nous aujourd'hui de réenchanter le monde, surtout dans cette période difficile que nous vivons, en faisant appel justement aux grandes utopies que sont encore la liberté, l'égalité, la fraternité. Elles ont façonné la République, elles nous ont donné les grandes lois des années 1880. Eh bien, il nous faut leur redonner du sens, de la réalité, parce qu'aujourd'hui encore, trop de fractures sociales, d'inégalités, de discriminations, de disparités sont à régler. Voilà l'utopie. Les faire diminuer, les faire disparaître, même si c'est possible.
Vous avez écrit « Le franc-maçon refusant de laisser place à la fatalité, mais agit en dehors du temps parce qu'il croit en l'espérance ». Alors, est-ce que oui, c'est pas à nouveau une nouvelle incantation? Il y a justement tout un article dans cet appel qui s'appelle « De l'incantation à l'action ». Mais précisément, que peut faire un franc-maçon de la Grande Loge de France? Ou alors, je pose ma question différemment. En quoi le travail en loge peut être les prémices d'un travail dans la cité, concrètement?
Alors, l'auteur de ces lignes, Jean-Jacques Zambrowski, a écrit son article sous ce titre, « De l'incantation à l'action ». Il n'est plus temps de se contenter de penser, justement. Il nous faut agir, justement. Alors, qu'est-ce qu'agir, justement, quand on sort du temple? Eh bien, c'est pratiquer dehors les valeurs qu'on a promis de suivre dedans. C'est respecter ses serments. C'est considérer l'autre comme un autre soi-même, et égal en droit, mais aussi en devoir d'ailleurs. Et tout cela à titre individuel dans notre environnement familial, professionnel, sportif, associatif. Pas nécessairement de l'héroïsme ou des actions d'éclat. Il n'est rien de si beau et de si légitime que de faire l'homme et bien, tout simplement, disait Michel de Montaigne. Oui. C'est-à-dire être exemplaire, c'est-à-dire être un homme juste en toutes circonstances. Et c'est pas si simple qu'il y paraît, ce n'est pas facile. Il y a des efforts, du courage, de la retenue, de la bienveillance, de l'empathie. Et donc tout ça, c'est un programme individuel, parce que c'est parce qu'on se sera conformé à ses engagements qu'on pourra, dehors, mener une action.
Alors, il y a un autre article qui fait référence, évidemment, à l'esprit des Lumières, cher aux francs-maçons, et à l'humanisme, tout aussi cher aux francs-maçons. Mais comment l'humanisme et l'esprit des Lumières peuvent nous aider aujourd'hui à construire un véritable vivre ensemble, vous disiez, ou on pourrait rajouter un vivre ensemble en paix? Comment?
Mais qu'est-ce que c'était que cet humanisme, si on se rappelle la phrase de Protagoras, « L'homme est la mesure de toute chose », c'est cité par Alain Noël Dubart. Cet humanisme venu de la philosophie antique a trouvé son épanouissement dans le siècle des Lumières, c'est le 18e, celui de l'encyclopédie, de la Royal Society. Que comporte-t-il qui puisse nous aider aujourd'hui à vivre ensemble? La liberté de pensée, de conscience, d'expression. Le rôle de la raison, en opposition à celui du dogmatisme. La séparation du temporel et du spirituel. L'universalité des droits, la recherche d'une vérité rationnelle et raisonnable. Alors, si ça c'est l'héritage du siècle des Lumières, comment peut-on penser qu'une société bâtie sur ces critères, qui pratiquerait ces valeurs, ne produira pas un vivre ensemble harmonieux? Le problème, aujourd'hui, on le voit bien, c'est que l'essentiel de ces valeurs n'est pas mis en application. Il reste Trop d'inégalités sociales, trop de combats d'idées, trop de disparités dans les richesses. Et même si le siècle des Lumières n'était pas le paradis sur Terre, il a contribué à faire avancer ces idées. Et c'est pour ça qu'il reste d'actualité.
Au moins promouvoir l'autonomie de chacun et au moins l'émancipation Absolument. De toute tutelle dont Absolument. Qui manque curieusement en ce moment. Autre sujet, c'est la tolérance. Alors, le franc-maçon est tolérant par nature. Enfin, cela dit, il n'y a pas que les francs-maçons qui soient tolérants. Mais la tolérance a évidemment des limites. Qu'est-ce qui est intolérable aujourd'hui, sans rentrer dans l'arbitraire? Est-ce que trop de tolérance ne tuerait pas la tolérance?
Alors, vous reprenez un des passages de Georges Comart qui a écrit cet article. Je vais prendre à l'envers. Qu'est-ce qui est intolérable aujourd'hui? Ben, tout ce qui constitue la négation des valeurs humanistes dont on vient de parler, qui se marque par le repli sur soi, par le rejet de l'autre. Et c'est quoi l'intolérable dans les faits? Eh bien, ce sera toute incitation à la haine et à l'exclusion, tout ce qui porte atteinte à l'intégrité, tout fanatisme, qu'il soit religieux ou politique, tout révisionnisme, historique, créationniste, le refus des différences de toute nature, qu'elles soient d'origine, de croyance, de conviction. Et si on se reporte sur le plan politique, ben le despotisme, le totalitarisme et les régimes qui privent de parole et de liberté d'aller et venir leurs citoyens. Voilà tout ce qui est intolérable. Et je voudrais faire une petite parenthèse.
Oui.
Plutôt que de pratiquer la tolérance, je préférerais que l'on dise que le franc-maçon promeut le respect de l'autre, dans ce qu'il est, dans ce qu'il pense, dans sa manière de vivre. Respecter donc plus que tolérer. Car pour être respecté, il faut aussi être respectable.
Il faut peut-être rappeler à nos auditeurs que finalement, une tenue dans nos temples, c'est peut-être l'un des rares lieux où on écoute l'autre sans s'invectiver, on n'essaie pas de convaincre l'autre quand on voit les débats Absolument. Sur les radios ou les télés où ce sont des pugilats, où il y a plus personne ne comprend rien. Peut-être rappeler que la loge est l'un des rares lieux où on est capable d'écouter, en maîtrisant ses passions, tout autre qui n'a pas du tout les mêmes idées que soi-même.
Précisément, et respecter la parole de l'autre, respecter ce qu'il pense, parce que peut-être il pense mieux que nous, de surcroît.
Alors, dans le respect des idées des autres, on ne peut pas faire cette émission sans évoquer la laïcité. Qu'est-ce que c'est la laïcité pour un frère de la Grande Loge de France
Je vais aller rapidement là-dessus, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Alors, nous-mêmes, nous l'avons maintes fois répété, seuls, dans le cadre de nos commissions laïcité ou avec les autres obédiences qui partagent nos valeurs, c'est très simple. L'État chez lui, l'Église chez elle. Voilà ce qu'est la laïcité. Liberté de croire ou de ne pas croire, c'est toute la loi de 1905, et en particulier les articles 1 et 2 que je vais juste relire.
Oui.
La République assure la liberté de conscience, et l'article 2, elle ne reconnaît ni ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Est-ce qu'on doit en dire plus? Pour la Grande Loge de France, depuis le convent de Lausanne de 1875, nous nous en tenons à une définition donnée par Isaac Adolphe Crémieux sur le grand architecte de l'univers. C'est la liberté de croyance. Toutes les croyances, toutes les positions sont admises dès lors que l'on n'est pas un athée stupide.
Alors la laïcité, ça me donne l'occasion d'évoquer un livre qu'a écrit Robert de Rosa, qui est un des contributeurs de cet appel de la Grande Loge de France. Aux éditions Numérilivre, il a écrit un livre qui s'appelle « Laïcité, tolérance et franc-maçonnerie » où il parle beaucoup de l'instruction publique, de l'éducation nationale, selon les périodes. Que pensez-vous du rôle de l'éducation dans les problèmes qui nous entourent?
Si j'osais plagier ce qui a déjà été dit, on doit la considérer comme la mère de toutes les vertus. On a rappelé récemment deux discours célèbres de Jean Jaurès, celui qu'il a présenté aux instituteurs et celui qu'il a présenté aux lycéens d'Albi. L'un comme l'autre insiste sur la primauté de l'éducation, donc de l'école, parce qu'elle est la condition de l'acquisition et de la transmission des valeurs qui font le vivre ensemble. L'ignorer, ne pas en tenir compte, pour moi, c'est revenir à l'état sauvage. Nier le rôle de l'école et de l'instruction, de l'apprentissage, de la vie en société, des concessions réciproques que l'on doit faire pour vivre ensemble harmonieusement dès le plus jeune âge, c'est là que tout commence, et c'est en quoi je partage entièrement ce qu'a dit Robert de Rosa dans cette contribution. Et puis, je vais vous livrer, pour le fun un peu, une citation que l'on attribue à Abraham Lincoln, mais entre autres, « Si vous ne croyez pas à l'éducation, alors essayer l'ignorance.
Pour conclure, cet appel, donc il est lisible sur le site de la Grande Loge de France. Tous les frères de la Grande Loge de France l'ont reçu. Mais au-delà de cette communication interne, est-ce que vous envisagez une communication externe et vers qui ?
Bien sûr, nous allons le diffuser auprès des médias, auprès de tous les responsables des médias, pour que peut-être un jour ils trouvent que nous avons quelque chose à dire dans ces grandes discussions qu'ils organisent régulièrement et où parfois on se perd. Aux politiques aussi, parce que nous savons que c'est une vraie préoccupation aujourd'hui, le vivre ensemble et la difficulté de réguler un peu les comment dirais-je le fonctionnement de la société. Bien entendu aussi à mes homologues des grandes obédiences et évidemment, last but not least, à tous les frères de la Grande Loge qui recevront par l'intermédiaire de leur vénérable maître. Parce que cet appel servira de base de travail, de base de réflexion sur ce qu'ils sont en train d'élaborer, ce que les loges sont en train d'élaborer sur le monde d'après dans le cadre de la commission sur le futur de nos loges. Je pense que se nourrir de ces contributions permettra de proposer des solutions concrètes pour le vivre ensemble et le monde de demain.
Merci Pierre-Marie Adam, grand maître de la Grande Loge de France. Il y a du travail pour que l'on puisse vivre ensemble, chacun avec ses croyances ou ses non-croyances. J'ai envie, puisque vous avez donné quelques citations à mon tour, j'en prends une, celle de Martin Luther King, qui est dans cet appel, qui disait « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. » Oui. Et il ajoutait « Et surtout, comme des ennemis. » Alors, il y a sûrement du travail, et mettons-nous à l'œuvre sans tarder, sinon le vivre ensemble en paix n'est pas pour demain. Merci Pierre-Marie Adam.
Merci Perry.
Merci Nicolas Delmas à la technique et merci à Perry Legras à la réalisation. Je vous souhaite un bon dimanche à tous et rendez-vous le dimanche 20 décembre.